Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Izzy Morgenstern, spécialiste de l'œuvre de Marc Rothko. Bonsoir Izzy.
Bonsoir.
Jusqu'au 2 avril prochain, la Fondation Louis Vuitton présente la seconde rétrospective en France consacrée au peintre américain Marc Rothko depuis celle du Musée d'art moderne de la ville de Paris en 1999. L'exposition réunit quelques 115 œuvres provenant des plus grands musées et de collections privées internationales, dont celle de la famille de l'artiste. Il faut rappeler que Marc Rothko est né en Russie en 1903, qu'il est l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Son vrai nom était Markus Rothkovitch. Il est né à Dvinsk, dans l'Empire russe en 1903, dans une famille juive. Si sa ville natale est relativement épargnée par les pogroms dans l'indifférence des tsaristes, l'atmosphère reste très tendue pour sa communauté. Acquis aux idées socialistes, le père de l'artiste, Yakov Rothkovitch, préfère émigrer aux États-Unis, à Portland, en 1913. Il évite ainsi à ses garçons d'être embrigadés de force dans l'armée du tsar. Après un court passage à Yale, Markus s'établit à New York en 1923 pour devenir artiste et il connaît alors une carrière honorable de peintre figuratif. Enclin à l'étude et à la transmission, il travaille également comme professeur de dessin et enseigne à des enfants du Jewish Center de Brooklyn à partir de 1929, une activité qu'il apprécie puisqu'il reste en poste jusqu'en 1952 alors qu'il aurait déjà pu vivre de son art. Malgré de brillants résultats scolaires et son intégration à la société américaine depuis son arrivée à 10 ans, il doit attendre 1938 pour être naturalisé. Il choisit alors un nom d'artiste pour gommer ses origines juives. Markus Rothkovitch devient officiellement Marc Rothko en janvier 1940, un nom qui sonne américain et qui entrera dans l'histoire. Car son parcours est intimement lié aux peintres qui ont offert aux États-Unis leur première école picturale d'envergure internationale, les expressionnistes abstraits. Pourtant, sa singularité et la puissance d'émotion que dégage sa peinture l'emportent sur tout effet d'école. La rétrospective qui lui est actuellement consacrée se déploie dans la totalité des espaces de la Fondation Vuitton selon un parcours chronologique. Elle retrace l'ensemble de la carrière de Marc Rothko depuis ses premières peintures figuratives jusqu'à l'abstraction qui définit aujourd'hui son œuvre. Et elle est sans doute l'événement artistique majeur du moment à ne manquer sous aucun prétexte. Avec Suzanne Paget, le co-commissaire de l'exposition, et Christopher Rothko, le fils de l'artiste, dont la mission et de valoriser et de faire connaître l'intention artistique si particulière de son père. Izzy Morgenstern, vous êtes un ami de Christopher Rothko et un bon connaisseur de l'œuvre de l'artiste sur lequel vous donnez des conférences depuis plus de 15 ans. Vous êtes également le réalisateur du documentaire Marc Rothko, un humaniste abstrait pour France 5. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené, vous personnellement, à vous intéresser à l'œuvre de cet artiste majeur?
D'abord, merci pour cet excellent résumé. J'ai découvert l'œuvre de Marc Rothko, comme vous le signaliez, à la première rétrospective, l'immense rétrospective, qui a eu lieu en 1999. Je ne suis pas à l'époque un spécialiste de la peinture, mais quelqu'un pense que de voir les toiles de Rothko pourraient provoquer quelque chose en moi. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Je me souviens, j'étais comme beaucoup abasourdi par la puissance et de ses œuvres, de ses toiles, et leur caractère énigmatique. Et j'ai eu envie de travailler, c'est-à-dire d'en savoir plus, d'avancer sur cette question. Et j'ai vu sur un carton qui était accroché à côté d'une des très très grandes toiles du musée, au musée, le fait qu'il était né donc à Dvinsk, à Dagopils, maintenant en Lettonie, donc pas loin de là où est née ma mère. Donc un juif balte, ce que je ne savais pas du tout, ni qu'il était juif, ni qu'il était balte. Et j'ai pensé que je pourrais tirer sur ce fil et que je pourrais travailler dans ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi quelque chose qui me permettrait d'approcher son mystère, et le caractère énigmatique est très puissant de ces toiles, en particulier des toiles de l'époque classique, c'est-à-dire des blocs colorés.
Selon vous, quels sont les éléments clés qui définissent l'œuvre de Marc Rothko ?
Moi je dirais, mais évidemment ça n'engage que moi, mais c'est ce que je répète depuis tant d'années, son tourment juif. C'est-à-dire que Marc Rothko, plus que Chagall, je trouve qu'il est né pas très loin de là, et qui est marqué par le chassidisme. Marc Rothko est marqué par le judaïsme de l'étude. Il est né pas loin, et quasiment la même année que Lévinas. Bon, ils ne se sont pas rencontrés, mais ils ont une préoccupation sur ce que signifie le rapport au judaïsme, qui est très proche. Le judaïsme de l'étude, c'est un judaïsme, je dirais, de l'abstraction. On trouve le Gaon de Vilna comme grand ancêtre de cette généalogie. Et ce qui le caractérise, c'est un, que c'est pas racontable. Chagall est racontable parce qu'il y a une forme de réalisme, il y a une vie de village qui est figurée dans ses toiles. Rothko, il y a quelque chose qui vient probablement de sa petite enfance. Je pense important de signaler que ses parents étaient pharmaciens, donc avaient vécu un début d'émancipation que le pouvoir russe, le tsar, leur avait donné, à condition qu'ils vivent dans un bourg. Donc ils ont travaillé, leurs parents, dans l'agriculture. Puis ça leur a donné le droit d'étudier à Saint-Pétersbourg et de devenir des gens semi-intégrés. Ils parlaient hébreu, mais ils parlaient russe, très peu yiddish à la maison. Et sur les quatre enfants, les trois premiers sont allés dans une sorte d'école libérale juive où l'enseignement du judaïsme était minimal. Et puis il y a eu la révolution de 1905, et à mon avis c'est le premier trauma important qui s'est attaché à Marc Rothko, l'antisémitisme, les pogroms, même s'il n'y en a pas eu là où il habitait. Le père a décidé de le mettre dans une école qui est un cheder, c'est-à-dire qu'il étudiait le judaïsme toute la journée. En particulier, donc on le sait, apprendre par cœur et la Bible et le Talmud, et par la suite, à Portland, la Kabbale. C'est probablement le seul peintre qui était à ce point, le seul peintre juif, il y avait beaucoup de peintres juifs dans cette région, le seul peintre juif qui était à ce point connaisseur du judaïsme. Pas attentif au fait qu'il était juif, mais connaisseur du judaïsme. Et c'est ce qui fait qu'après la guerre, après qu'il ait eu conscience que toutes ses tentatives pour parler un langage universel n'avaient pas pu empêcher la Shoah, et lui n'avait pas trouvé d'écho dans le monde qui était le sien, quelqu'un qui était d'abord et avant tout un philosophe avant d'être un peintre, il a décidé de se rallier au langage pictural du judaïsme, qui est quelque chose de pas très connu, mais que lui connaissait très bien.
C'est très intéressant ce que vous nous racontez là. On sait que, vous nous l'avez bien expliqué, il a baigné dans une atmosphère juive. Il était également, Marc Rothko, féru de mythologie et de tragédie antique. Est-ce que finalement, ce lien entre ces éléments pourrait être une sorte de trait d'union entre un judaïsme et finalement une culture de l'Occident ou la pensée universelle? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ce que j'en pense, c'est absolument non. Après, je vous dirais qu'il pense le contraire.
Oui.
En l'occurrence, Christopher Rothko, dans son livre « L'intériorité à l'œuvre », un livre nécessaire pour qui veut comprendre Rothko. Ma thèse est que, comme il était juif de deux manières, un juif qui cherchait l'assimilation, surtout à partir du moment où il a été aux États-Unis, puis ensuite qu'il a étudié à Yale, qui était quand même un endroit où l'antisémitisme, encore jusqu'à aujourd'hui, fleurait bon, et qu'il était un homme de gauche, il voulait entrer dans le langage de l'universel et des lumières qui était celui de la gauche. La mythologie telle qu'il l'a peinte et d'autres langages comme le surréalisme qu'il a utilisé, tout ça avant la guerre et pendant la guerre, était pour lui, il le dit dans une interview, le langage qui permet de parler à tous. Les grands mythes, c'est ce qui est fondateur de l'humanité, de l'Occident en tout cas. Et puis, la guerre venant, et en particulier le massacre et des Juifs, donc la Shoah, et d'une partie de sa famille qui était restée en Lettonie, l'a persuadé que le langage universel était quelque chose qui n'avait pas d'effet pertinent et qu'il fallait qu'il arrête de tenter de creuser ce sillon. Et comme il connaissait un langage particulier qui était le sien, qui était celui du judaïsme, il a basculé dans un univers pictural au moment des tableaux colorés, les grands blocs colorés, qui viennent de là, qui viennent du judaïsme et pas du langage universel. Et c'est à partir de là qu'il a trouvé, comment dirais-je, une manière d'opérer qui lui convenait. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il dit tout ça, il le cite. Donc je me suis appuyé sur ce qu'il disait pour avoir cette thèse, pour pouvoir promouvoir cette thèse, à savoir que dans les années 46-47, après la guerre, il bascule dans un autre univers et il change de langage pictural. Christopher Rothko, son fils, que j'ai connu quand j'ai fait le film, c'est-à-dire il y a 20 ans pratiquement, et depuis on ne se quitte plus, et on s'est vu évidemment pour l'expo, et qui a publié ce livre, L'intériorité à l'œuvre, récemment, donc traduit en français, lui pense le contraire. Il tente de persuader ceux qui lisent le livre, et puis les visites qu'il a faites, dont les visites privées où j'étais, qu'il y a une continuité entre les tableaux réalistes, les premiers qu'il a faits, et les derniers, en particulier la chapelle Rothko, qui est un univers entièrement proche du noir, qui est enfermé, et qui nous éloigne complètement des couleurs absolument incroyables des tableaux de la période classique. Il a du mal, c'est mon point de vue, je le lui ai dit, on s'aime beaucoup, on se parle souvent. Il est le parrain de trois de mes enfants qui ont vécu à New York, donc on est très proches. Il a du mal à être persuasif dans ce domaine, mais il y tient. Il pense qu'il y a une continuité. Et moi, je pense qu'il y a une rupture et que c'est le judaïsme qui lui a permis d'effectuer cette rupture.
Alors, vous l'expliquez bien, l'exposition le montre, avec Christopher Rothko comme co-commissaire, le passage de l'artiste du figuratif à l'art abstrait, enfin, les étapes de son œuvre. Est-ce que vous pensez que l'œuvre de Rothko a influencé l'art contemporain en général et certains artistes actuels? Ou est-ce que c'est une œuvre assez inédite, originale et peu copiée et peu influente, qui a influencé peu de mouvements?
Pour moi, elle n'a influencé personne. Pour la raison que je viens de développer, je ne veux pas faire de blagues un peu ridicules, mais je vais la faire quand même. Oui. Le judaïsme, c'est du chinois. Je l'enseigne depuis un paquet d'années. J'ai fait des cours à la fac de droit de Bordeaux, donc fac de droit, sur le droit hébraïque. Ils m'écoutaient en disant « mais de quoi ils parlent ?» Et donc, incontestablement, le matériau qui est issu du judaïsme n'est pas lisible. Et à partir de... Enfin, il est lisible par très peu de gens qui, par ailleurs, dans les yeshivas, tout ça, ne s'intéresse pas à la peinture. Donc, on se trouve devant un être isolé. Il l'était, d'ailleurs, il se sentait assez seul et assez isolé. Toute la journée, évidemment, dans un studio en train de peindre, n'arrange pas la vie sociale. Et il n'a pas eu, comment dirais-je, d'héritier, du tout. Parce que je ne vois pas, mais lui non plus ne voyait pas. Et il n'y tenait pas spécialement. Qui pouvait reprendre ce langage, le langage de la nuée, qui est celui de l'épiphanie de Dieu, lorsqu'il apparaît à Moïse au Sinaï, à travers un nuage, le langage des couleurs, qui est celui du grand prêtre et du plastron du grand prêtre, les langages des couleurs selon la Kabbale et toutes ces choses-là, c'est pas transmissible théoriquement, et il n'y a pas, à ma connaissance, de peintres qui ont pu s'emparer de ce type de choses. Et donc, il est seul dans sa catégorie.
Marc Rothko disait qu'il n'était pas un coloriste. Pourtant, la couleur semble primordiale dans l'intention mise dans la conception de ses œuvres. Est-ce que l'approche de Rothko en matière de couleur et de forme est très différente des autres artistes de son époque? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Parce que même s'il le disait qu'il n'était pas coloriste, est-ce que finalement, il n'y a pas quand même toute une recherche autour de la couleur dans les tableaux et on le voit bien à la Fondation Vuitton?
Alors, il n'était pas coloriste, il était le meilleur spécialiste ça. Hein. C'était un intellectuel, il lisait Platon, il lisait Schopenhauer, Goethe, et Nietzsche, surtout, Naissance de la tragédie. Et donc, il savait de quoi il parlait. Il n'était pas coloriste, et la preuve, c'est que quand il a vu que ces tableaux colorés étaient, comment dirais-je, fascinants, c'est-à-dire qu'ils provoquaient une forme d'aliénation chez ceux qui les avaient. Et vous savez que dans le judaïsme, le fait d'être aliéné à quelque chose, c'est-à-dire d'être dans une sorte de dépendance d'idole, une forme d'idolâtrie, est terrible, parce que ça vous empêche de passer à côté de la vérité du message juif, enfin du message du judaïsme. Il a donc retiré la couleur, volontairement. Il a commencé à peindre de manière de plus en plus sombre, puis il a peint des tableaux qu'on appelle les Black and Grey, qui sont aussi à la Fondation, qui sont magnifiques, qu'il devait exposer en même temps que Giacometti à l'UNESCO. Bon, l'exposition s'est pas faite, c'est une idée magnifique. On trouve trois Giacometti à la Fondation Vuitton, et là, on voit le résultat des tableaux noirs sur gris, ou gris sur noir, et des sculptures de Giacometti. Et plus de couleurs, on peut dire qu'il y a plus de couleurs. Et dans la chapelle Rothko, il n'y a pas de couleurs, pratiquement pas de couleurs du tout, c'est pas totalement noir, mais presque. Donc, il a enlevé les couleurs parce que, il le dit, son message avec les couleurs ne passait pas. Alors après, il y a toute une discussion sur quel est ce message. Pour moi et pour lui, il l'a dit, mais bon, les gens n'ont pas trop fait attention, c'est le fait qu'il y a une unité derrière la dispersion des intentions et de l'humanité et du monde. Et cette unité, la couleur l'a figurée comme des personnages. Il vient du théâtre, Marc Rothko, il a fait du théâtre, et il explique, je le cite, « Je fais rentrer les couleurs dans les tableaux comme des personnages. » Il en rentre un, il met un bloc de couleurs, et après il regarde quel est l'autre bloc de couleurs, ou le troisième, souvent il y en a trois, qui vont être compatibles pour que cette scène à trois, sur un fond monochrome, permette de raconter quelque chose. Dernier point sur les couleurs, en général les couleurs, soit traduisent l'état d'âme du peintre, les couleurs rouges qui montrent un état d'exaltation, les couleurs noires qui montrent un état de déprime, enfin bref, c'est l'état dans lequel se trouve le peintre. Il y a un langage des couleurs, peu de peintres l'utilisent, mais dans les années d'après 14-18 ou un peu avant, on enseignait la théorie des couleurs, c'est-à-dire comme se basant sur Schopenhauer et Goethe. Et la théorie des couleurs, c'est quelles sont les couleurs compatibles entre elles, enfin on le sait, il y a des couleurs qui vont bien entre elles et d'autres pas. Rothko n'est ni quelqu'un qui parle de lui-même avec les couleurs, ni quelqu'un qui utilise une grammaire des couleurs. Rothko raconte avec les couleurs de quoi il est question dans le monde. Et donc ces couleurs sont des langages codés sur, comment dirais-je, sur l'au-delà. Et à ce moment-là, je ne vois pas non plus qui pourrait le faire à sa place, mais c'est aussi pour ça qu'elles sont si puissantes. C'est-à-dire qu'on ne cherche ni la sensibilité de l'artiste, puisqu'il les a enlevées, les couleurs, au bout d'un certain temps, ni un langage des couleurs qu'on pourrait enseigner. Il y a des couleurs inouïes, absolument incroyables, et qui sont les personnages qu'il a fait rentrer sur la toile.
Alors, je voulais pas vous poser cette question, mais à vous entendre, j'y suis obligée, même si elle paraît un peu simpliste. Est-ce que l'œuvre de Marc Rothko est une œuvre juive ?
Ah ben, totalement, oui. Je ne peux que renvoyer d'abord mes conférences, le nombre de gens qui n'ont pas écouté mes conférences, partout, hein, partout. Chaque fois qu'il y avait une exposition Rothko, à Varsovie, à Washington, je ne sais pas, à Tel Aviv même, j'étais là, avec une conférence sur Rothko, peintre juif. Mais j'ai fait un texte qui résume à peu près ça, dans le très beau numéro de l'Arche, où il y a d'autres textes que le mien, sur Rothko, qui est le numéro de novembre et décembre, on doit pouvoir le trouver encore, je ne suis pas sûr, c'est beaucoup vendu. Et ce texte, son titre, c'est « Ce que l'œuvre classique de Marc Rothko, c'est-à-dire les blocs de couleurs, doit au judaïsme. » Et je développe tous les points, c'est-à-dire le brouillard, la nuée, les couleurs, la manière d'accrocher l'étoile, enfin, toutes ces choses qui sont la marque de fabrique de Marc Rothko, dont Christopher était le gardien, il est toujours le gardien d'ailleurs, puisqu'il s'est occupé de cette expo avec une intelligence magnifique, dépendent du judaïsme et ne dépendent pas d'une quelconque école de peinture.
Vous avez écrit et réalisé le documentaire Marc Rothko, un humaniste abstrait pour France 5. Prochainement, on pourra le voir trois fois, le 30 janvier à la SCAM, le 8 février au Centre Mayanne, le 28 février à Montauban, à l'Espace des Augustins. Comment vous l'avez pensé, ce film documentaire? Quelle est sa ligne directrice?
Sa ligne directrice, c'est que je l'ai fait il y a 19 ans. C'était de montrer l'exposition. Parce que l'exposition s'est arrêtée, évidemment, comme il se doit, au musée d'art moderne, et j'ai pensé que le nombre de gens qui n'avaient pas vu l'exposition, parce qu'ils n'étaient pas alertés sur l'importance de Rothko, c'est pas comme cette fois-ci, et donc le film est chronologique. D'accord avec Christopher Rothko, on a travaillé ensemble, enfin, c'est mon film, mais à chaque fois que j'avais un souci, je m'adressais à lui, il m'a dit, on ne peut pas faire un film thématique. Les logiques thématiques ne conviennent pas à Rothko, ce qui convient à Rothko, c'est le fait que, chronologiquement, il tente un langage, puis ce langage ne lui donne pas de satisfaction, il passe à un autre, puis ce langage, donc il passe du surréalisme au langage mythologique, par exemple, et à partir de ce moment-là, la chronologie s'impose. Donc mon film est chronologique.
D'accord. Alors, il y a plusieurs dates, hein. On l'a dit, dans des lieux différents. Est-ce que vous avez un site internet ou est-ce qu'il faut se connecter sur les sites des différents lieux, SCAM, Centre Mayanne et l'Espace des Augustins, pour avoir les informations précises, ou est-ce qu'on peut le voir ailleurs? Comment faire pratiquement pour les auditrices et auditeurs de Radio Shalom pour assister à ces séances?
Le plus simple, c'est de m'écrire. Puisque je dois donner des listes de gens qui souhaitent venir. Des fois, c'est payant, la SCAM, c'est gratuit, mais en même temps, ils veulent le nom des gens qui sont invités. Donc, si je peux dicter mon adresse email,
oui,
que les gens m'écrivent, m'envoient, disent, je veux voir telle et telle projection, et à ce moment-là, je les inscris pour la projection. Et je peux dicter mon adresse email?
Bien sûr, allez-y.
Alors, c'est easy. I comme Isabelle, S comme Suzanne, Y comme Yolande, mon prénom. Morgenstern, il n'y a pas de point entre les deux. morgenstern@ @gmail.com.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Izzy Morgenstern, qui nous parle de la vie et de l'œuvre de l'artiste juif Marc Rothko. En pleine fièvre créatrice et condamné par la maladie, Marc Rothko se suicide en 1968. Est-ce que vous pensez que sa mort, décidée, a également contribué, en plus de la puissance de son œuvre, à le faire entrer dans la légende?
Oh oui, pour une part, parce que les gens sont assez people. Mais en fait, son suicide était aussi une énigme. Il y a eu tout un débat, sa fille aînée avait 18 ans à l'époque quand il s'est suicidé. Et il y a eu tout un débat pour savoir s'il s'est réellement suicidé ou s'il n'a pas été tué par son marchand. Parce qu'à partir du moment où ce marchand lui avait fait signer un contrat où il héritait, où il recevait toute l'œuvre restante et la gérait, à ce moment-là, il avait intérêt à ce que... c'était un voyou, hein, le marchand, Marlborough, la galerie Marlborough. Il avait intérêt à ce que Marc Rothko disparaisse. Après de nombreuses discussions, réflexions, j'ai lu beaucoup là-dessus. Son dernier tableau, en date, est rouge, monochrome. Et j'ai pensé, comme il a fait du théâtre, Rothko, qu'il allait, et qu'il était hébraïsant, qu'il avait exploité ce triple symbole, rouge, c'est-à-dire Adam, le sang, Adama, la terre, et Adam, l'homme. Et que donc, il avait l'habitude de ce genre d'énigme, c'était quelqu'un qui était assez sarcastique. Et donc, au bout du compte, je pense qu'il s'est suicidé. Et j'ai une hypothèse là-dessus. Son fils, non. Il ne veut pas trop se lancer là-dedans. La chapelle Rothko, si les gens la voient, ou la maquette qu'il y a à la Fondation Vuitton, elle est sombre, il n'y a pas de fenêtre. C'est un endroit magnifique, incroyable, mais très noir. Pendant qu'il peignait l'étoile de cette chapelle, il s'est rendu compte que plus personne le suivait. C'est-à-dire les gens se faisaient du souci sur ce qu'il allait devenir, puisqu'il avait été au-delà de la couleur, au-delà d'étoiles. C'était un lieu, c'était pas, à dire vrai, une exposition de toile et qu'il ne voyait pas comment continuer. Et ne voyant pas comment continuer, c'est mon hypothèse, il a mis fin à ses jours une fois qu'il a eu terminé de peindre la chapelle Rothko, et qui est d'une certaine façon son chef-d'œuvre.
On le sait, hein, Marc Rothko a aussi ses détracteurs, même s'il est très apprécié. On parlait tout à l'heure de la puissance émotionnelle quand on visualise, quand on regarde une de ses œuvres. Mais des détracteurs aussi, tout comme l'art abstrait. Et on peut résumer les charges qui pèsent sur son œuvre par plusieurs points. La simplicité excessive, le manque de technique, l'absence de signification claire, l'aspect commercial, l'élitisme, etc., etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ces personnes qui font partie de ces détracteurs ?
Ce que Marc Rothko a répondu, parce que il a été évidemment mis en demeure de s'exprimer et de s'expliquer là-dessus. Il a dit « J'ai choisi l'abstraction parce que c'est la meilleure façon de dire de façon simple des choses complexes. » Et comme ce qu'il avait à dire était assez compliqué et assez incompréhensible, l'abstraction permettait d'éviter de s'égarer dans la figuration. Il dit également qu'il a renoncé à la figuration parce qu'il était difficile de traiter de la figure humaine sans la maltraiter, c'est-à-dire sans l'abîmer. Donc il avait, il avait ce tourment qui était de dire des choses, d'attirer l'attention de ceux qui regardent, et pour ça c'est réussi, sur le fait qu'il y a de l'au-delà de l'être. Là on est tout à fait chez Lévinas, et que Dieu vient à l'idée. Et pour la première fois depuis 18 ans, son fils, dans le livre qu'il a écrit sur son père, parle de Dieu. Avant, c'était un terme qui était tabou. Marc Rothko ne croyait pas du tout en Dieu. Mais le fait qu'il souhaitait que les gens se rendent compte qu'il y a de l'au-delà de l'être, qu'il y a autre chose que la réalité la plus tangible, la plus concrète, des personnages, des paysages, des choses comme ça, c'était son tourment. Et que ce tourment-là, aujourd'hui, dans cette exposition rétrospective qui est absolument magnifique, qui est incroyable d'intelligence et de beauté, on le sent. On n'est pas obligé de l'écrire ou de le comprendre, mais on le sent bien.
Encore une fois, c'est très intéressant ce que vous nous expliquez. Et évidemment, vous le dites, mais on y pense, hein, à l'au-delà du verset d'Emmanuel Lévinas, d'Éliane Amado, Olivier Valencier, et de toutes ces grandes figures de l'école française de pensée juive dans l'après-guerre qui ont redonné une actualité à la tradition juive, au texte de la tradition juive. Et plus que jamais, en vous écoutant, on s'aperçoit que Marc Rothko était un artiste juif qui a développé une œuvre juive. Alors justement, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a de nouvelles directions de recherche qu'il serait bon d'exploiter ou d'explorer autour de l'œuvre de Rothko ? Et est-ce que vous-même, vous poursuivez votre exploration de son œuvre ?
Non, pas vraiment, parce que je ne vois pas d'autres pistes. Le seul qui, de façon, pertinente, a exploré une autre piste, c'est son fils, dans le livre « L'intériorité à l'œuvre », donc qui a été publié chez Hazan, là, récemment. Et en fait, si des personnes qui m'écoutent ne sont pas persuadées par ce que je dis, le mieux, c'est d'en référer à Christopher Rothko et à son livre. C'est toute une série de courts articles où il montre un Rothko d'une certaine façon différent de ce que je raconte, de ce que je viens de dire. Mais on bute sur le fait que comme il n'a pas été influencé picturalement par d'autres peintres, qu'il n'en a pas influencé d'autres, qu'il a laissé très très peu d'écrits, sauf un livre qui s'appelle « La réalité de l'artiste », qui est un livre théorique où il ne dit même pas qu'il est peintre, c'est-à-dire c'est vraiment un livre théorique sur l'artiste, c'est assez difficile de poursuivre la recherche. En tout cas, moi je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est que je présente mon film ou je donne des conférences, ce qui fait que j'espère que des gens vont être attirés par son œuvre. Là où j'habite dans le Tarn, à Gaillac, le film est passé au cinéma de Gaillac, c'est un cinéma d'art et d'essai. Il y avait 300 personnes, donc les groupies de Rothko sont innombrables. Et la satisfaction que j'ai eue, c'est que les gens n'ont pas bougé pendant 50 minutes, ont découvert une œuvre sans pour autant pouvoir développer un narratif ni similaire au mien, ni différent du mien. Mais ils ont été en arrêt devant l'étoile de Rothko, et je pense que c'est ce qu'on peut espérer de mieux.
Alors, les trois projections qui arrivent, est-ce que vous serez présent? Est-ce que le public qui aurait envie de vous poser des questions pourra vous les poser?
Oui, oui, à chaque fois. Oui, oui, je serai et présent, et le public pourra poser des questions. C'est le but. Le but, c'est qu'ils voient l'expo et le film, surtout pour les gens qui n'auront pas vu l'exposition, ou qui souhaitent la voir, ou qui souhaitent la revoir, puisque le film montre une sorte d'exposition. Il y a 80 toiles dans le film, donc on n'est pas loin des 115 toiles de la Fondation Vuitton. Oui, oui, bien sûr, je serai là, et tant que faire se peut. Mais bon, je vais être très franc, puisque j'ai l'occasion de l'être.
Oui.
Je dis toujours dans les discussions que l'influence du judaïsme est lisible. Et je le dis à des publics pour qui le judaïsme ne voit pas ce que c'est, et ils ne vont pas s'y attaquer à l'âge qu'ils ont. Donc, ils ne sont pas juifs, la plupart. Donc, les explications que je peux donner, sauf si elles sont, comment dirais-je, biographiques ou anecdotiques, comme vous avez posé la question, suicidé, pas suicidé, est-ce qu'il était dépressif? Oui, il était dépressif. Soulage, qu'il a bien connu, se sont connus et rencontrés, je lui ai demandé de quoi parliez-vous quand il venait vous voir en France. Il m'a dit qu'il voulait que je prépare des blinis et de la vodka. Donc voilà, il n'avait pas envie de discuter du fond de l'affaire. Mais il buvait beaucoup de vodka et il mangeait des blinis. Donc c'était un Russe qui était sa juif de l'étude, un juif balte. Et donc, il faut aussi être attentif au fait que ce n'est pas un juif du chassidisme. Et ça aussi, ce sont des explications qui ne marchent qu'avec les gens qui font la différence entre les juifs de l'étude et les chassidismes.
Un mitnagdim, donc, comme vous, comme votre famille originaire de Dvinsk. Il y a une question difficile, mais classique, pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de la fréquence juive de s'intéresser à l'œuvre de Marc Rothko, d'aller visiter cette exposition qui se prolonge jusqu'au 2 avril et d'aller voir votre documentaire, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais que c'est une des voies d'accès, c'est pas la seule. C'est une des voies d'accès vers ce que le judaïsme a pensé sur l'au-delà de l'être. L'autre voie d'accès, évidemment, ça pourrait être Lévinas, ou ça pourrait être Haïm de Volozine, mais là, on rentre de plus en plus dans des textes difficiles, en tout cas, pas d'un accès facile. Donc, ce qui est le plus attractif, ce qui est le plus émouvant, parce qu'il y a une émotion énorme qui se dégage des tableaux colorés de Marc Rothko, des tableaux colorés, pas de la période réaliste. Et après, ça se discute. Est-ce que des tableaux noirs sur gris, il y a une émotion interne, intense, qui se dégage? Ça se discute. Mais pour ce qui est des tableaux colorés, non, évidemment, les gens sont pétris d'émotions, comme moi, devant ces tableaux. Et donc, voilà, c'est une manière de dire il y a un au-delà de l'être, et cet au-delà de l'être, Rothko le représente en peinture. Et donc, il ne nécessite pas un bagage culturel énorme pour y être attentif. Pour le déchiffrer, oui, mais pour y être attentif, non.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment, Izzy Morgenstein, d'avoir parlé de la vie et de l'œuvre de l'artiste Marc Rothko. On rappelle qu'une rétrospective lui est consacrée à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 2 avril et qu'en marge, il y a les projections de votre documentaire Marc Rothko, un humaniste abstrait. On peut rappeler votre adresse mail pour les auditeurs et les auditrices qui souhaiteraient assister aux projections ou vous contacter. Easy. Donc,
il faut me contacter, oui, pour que je puisse les inscrire sur les invités, sur la liste des invités.
Oui.
I comme Isabelle, S comme Suzanne, Y comme Yolande, puis mon nom de famille sans point, donc Morgenstern, Morgenstern, @gmail.com.
Eh bien, c'est parfait. Bonsoir.
Je suis une juive balte. Mon père est originaire de Pologne, de Razoumin, l'endroit où est né Isaac Bashevis Singer.
Eh bien, quels ancêtres prestigieux. Enfin, quelle lignée de vie d'ancêtres prestigieux. Bonsoir, en tout cas, et à très bientôt. Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.